Bonjour à tous, bienvenue dans 7 jours dans le monde, retour sur l'actu internationale de la semaine qui nous emmènera à Washington où Donald Trump annonce une hausse historique des dépenses militaires. Paris avec François Hollande qui décrète la mobilisation générale contre les cyberattaques. Palmyre en Syrie avec ce nouveau revers pour l'État islamique. Et puis Jakarta, l'une des étapes de la tournée asiatique du roi d'Arabie Saoudite, tournée qui va durer un mois. C'est parti pour 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Pierre Servent qui est avec nous. Bonjour Pierre.
Bonjour Fabrice.
Spécialiste de questions de défense avec un tout nouvel opus. C'est sorti il y a quelques jours. Hein, les présidents et la guerre. Enquête inédite au cœur de la défense. 7 présidents, 7 chefs des armées. Hein, les présidents de la République depuis 1958. Hein, comment se sont-ils comportés dans ce rôle de chef de guerre pour faire la guerre également. C'est dans le dernier opus de Pierre Servent. Vladimir Fedorovski, bonjour.
Bonjour.
Vladimir avec Poutine de A à Z. C'est le deuxième volet de votre enquête que vous aviez démarré il y a 5 ans sur le président russe.
Il y a 25 ans.
Voilà, très bien. Mais il se fait que depuis 2007, il s'est passé quand même beaucoup de choses, hein, avec ben, voilà, le retour à une nouvelle guerre froide. On va démarrer là-dessus, peut-être, les affaires syriennes, bien entendu. C'est signé de Vladimir Fedorovski. Alors, répondre aux menaces d'un monde dangereux. Respecter sa promesse de protéger les Américains. Donald Trump, voilà, il propose donc au Congrès une hausse historique des dépenses militaires du Pentagone. 54 milliards de dollars en plus, c'est-à-dire presque 10% de plus. Donald Trump, c'était son discours devant le Congrès.
Je vais demander au Congrès un budget qui reconstruit la défense, qui élimine toutes les restrictions et qui vise à l'une des plus grandes augmentations pour la défense nationale dans l'histoire des États-Unis. Mon budget augmentera également les retraites pour nos vétérans. Nos vétérans ont aidé la nation. Maintenant, nous devons les aider.
Voilà, une hausse des dépenses militaires qui sera compensée par une baisse équivalente des dépenses non militaires. Pierre Servent, qu'est-ce qu'il va en faire ? L'armée américaine, elle avait eu à souffrir justement du mandat de Barack Obama ?
Oui, en tout cas, pendant le mandat de Barack Obama, il y avait eu des diminutions assez sérieuses du budget de la défense, ce qui était logique puisque Barack Obama a été élu pour se désengager de l'Irak, de l'Afghanistan, donc il avait baissé la garde. Mais sur la fin du mandat, du deuxième mandat de Barack Obama, il avait réaugmenté le budget et cette nouvelle augmentation n'est pas du tout absurde. D'abord, vous avez des matériels majeurs qui arrivent à obsolescence, qui arrivent en fin de parcours. Le fameux drone Predator armé de missiles Hellfire.
Des drones tueurs.
Des drones tueurs qui ont notamment abattu le numéro 2 d'Al-Qaïda.
Cette semaine. Enfin, ça a été annoncé cette semaine.
Voilà exactement. Al-Masri qui a été abattu par le Hellfire. Le Hellfire a plus de 20 ans, donc il faut passer à des nouvelles générations. Il y a également toute la dimension du renseignement, de la cyberguerre, où il faut réinvestir. Et puis, il y a aussi la perspective d'un réengagement militaire américain. C'est un peu paradoxal par rapport à des tas de choses que Trump a dit, mais Trump a sur son bureau depuis quelques jours un document secret défense du Pentagone sur comment détruire l'État islamique en Syrie.
On y reviendra dans 20 minutes, exactement.
Voilà. Oui. Et donc tout ça, comment dirais-je, justifie cet effort. Le problème, c'est où est-ce qu'il va chercher l'argent ? Et là, on retombe dans des absurdités trumpiennes, puisqu'il va taper notamment sur les budgets de la politique internationale de l'aide au développement, alors que comme l'a dit le général Petraeus, ancien patron de la CIA, justement, la donne militaire du monde aujourd'hui, bien sûr, vous avez l'outil militaire, mais il faut lutter à la base des déstabilisations des États, et ça passe notamment par l'aide au développement, etc.
Donc, et Petraeus dit tout ça, ça va se faire au détriment de la diplomatie, justement.
Exactement.
Si on met ce fort sur le militaire, voilà. Ça se fera au moins sur la diplomatie.
On a toujours l'impression que Trump est toujours dans du mono-sujet, qu'il a beaucoup de mal à comprendre que quand on mène une action dans un domaine, il faut regarder les répercussions sur d'autres et la cohérence de l'ensemble. Là visiblement, le ton était beaucoup plus solennel, mais la construction mentale de Donald Trump ne permet pas de penser qu'il a encore intégré ces multiples aspects, le fait qu'il faut tenir plusieurs cordes, plusieurs rênes sur un sujet.
La défense aux États-Unis, le budget militaire, hein, c'est le premier budget au monde, hein, 3,3% du PIB, 600 milliards de dollars, c'est 3 fois plus que la Chine, 8 fois plus que la Russie. gros budget, mais en effet, vous le rappeliez, hein, surtout pour payer 20 fois le français, surtout pour payer le nombre important de militaires, un peu moins pour le matériel qui est un petit peu désuet, vous le disiez. Les États-Unis doivent se placer en tête du peloton des puissances nucléaires, devront pour cela étoffer leur arsenal. C'est ce qu'il disait la semaine dernière. Vladimir Fedorovski, quand il se réarme, c'est pour viser qui alors? C'est quoi? C'est la Russie? C'est l'Iran? C'est la Corée du Nord?
Non, en premier lieu, bien entendu, la Chine. Vous savez, c'est quand même une évolution tout à fait significative et j'ai toujours pensé que Trump, c'est une sorte de mélange entre Nixon et Reagan. J'ai autrefois travaillé, quand j'étais aux affaires avec Reagan, il m'a rappelé beaucoup et cette présentation, vous savez, vous connaissez comment ça se passe d'une manière générale, on invente maintenant les choses, on invente les personnages et après on croit que ça existe. On a inventé que lui, il était un agent de Poutine et puis maintenant, comment vous allez expliquer quand il lance ce genre de programme que Poutine l'a placé. Tout ça, c'est tout à fait cohérent. C'est quelqu'un qui défend les intérêts des États-Unis. Il va défendre les intérêts des États-Unis. Et là, Pierre, il a raison. Et là, c'est incohérence. Mais en même temps, le message est bien là. Il y a là-dedans, évidemment, les problèmes qui vont surgir. On va en parler. Il prépare déjà la rencontre avec Poutine. Avec, vous avez mentionné l'Iran. Il y a d'autres sujets qui vont apparaître. Et les Russes ne vont pas nécessairement lâcher la Chine. Vous savez, trompez-vous. Ce sera très dur. On a dit, ce sera une nouvelle Yalta. Encore une fois, je vous fais reproche, pas à vous, mais je fais reproche à n'importe quoi médiatique que vous connaissez par cœur, quand ils ont inventé une nouvelle Yalta. Comment expliquer maintenant tout ça, c'est à l'heure du jour et la course aux armements, ce sera difficile.
Et voilà, il a raison Vladimir, hein, Pierre Servan. Est-ce qu'on assiste à un réarmement de la planète? Le marché mondial de l'armement, il est au plus haut depuis la guerre froide. On rappelait encore ces chiffres la semaine dernière sur BFM Business. Plus de 20 milliards d'euros de commandes d'armes auprès de la France. Record historique, on a vendu des sous-marins, des rafales, des hélicoptères Caracal, partout.
Oui, effectivement, la France est vraiment en pole position sur ces ventes que je n'appelle pas moi d'armement, mais de systèmes d'armes et qui s'inscrivent dans des partenariats stratégiques avec les pays à qui on les vend. Hein, on ne vend pas des caisses de munitions comme ça sous la table. Mais c'est vrai que la France a particulièrement bien fonctionné dans ce domaine pour plusieurs raisons. Vous l'avez dit, il y a des tensions partout dans le monde. Donc il y a des tas de pays qui ont peur d'autres pays, entre l'Arabie Saoudite, l'Iran, Pakistan, Inde, l'Égypte, la Libye, etc. Donc il y a cette demande d'armement et de réassurance par l'armement. Et puis par ailleurs, du côté français, la réussite s'explique par un talent très particulier de Jean-Yves Le Drian, tout à fait en rupture avec l'équipe précédente de Nicolas Sarkozy, où les choses étaient hyper centralisées au niveau de la présidence, avec Jean-Yves Le Drian, qui est le régional de l'étape, qui est un girondin plutôt qu'un jacobin. Il a un système qui fonctionne par subsidiarité, c'est-à-dire dans l'approche de la vente de systèmes d'armes, chacun à son niveau, le politique à son niveau, la délégation générale pour l'armement à son niveau, les militaires à leur niveau, et les veaux seront bien gardés. Et en fait, cette approche très pragmatique de ce ministre-là, avec vraiment cet étagement derrière, a fait que la France a surperformé et a vendu notamment le Rafale qui n'avait jamais été vendu. Alors tout ça est quand même assez préoccupant, d'autant plus préoccupant que vous avez une entité, une zone qui, elle, ne réarme pas et a des budgets défense qui ressemblent un peu au montre-molle de Dali. Hein, vous l'avez dit, c'est l'Union Européenne.
Je vous écoute, j'ai dit pourquoi elle ne se présente pas.
Article très intéressant cette semaine de Alain Barluet, que vous connaissez bien sûr dans le Figaro. Les puissances navales réarment tous azimuts. Ce qu'il explique Alain Barluet, au cours des 4 années écoulées, la marine chinoise, elle a mis en service 80 navires de guerre, dont un porte-avions, 3 sous-marins nucléaires. Pékin contrôle désormais la deuxième marine de guerre du monde et vise la parité avec les États-Unis en 2025. L'Inde dispose d'un porte-avions livré en 2013 par la Russie. La Russie, justement, la flotte sous-marine en déshérence il y a 20 ans, est revenue au premier plan. Ils sont en train de construire simultanément 3 séries de sous-marins modernes. Regain d'activité comme ça sur toutes les mers du globe?
Oui, absolument. Vraiment, la mer est stratégique, est essentielle. La France a des atouts, mais elle a un peu baissé la garde dans ce domaine, avec notamment le fait qu'elle n'a pas de second porte-avions à propulsion classique, ce qui fait que quand le Charles de Gaulle est en arrêt
en révision
très lourde pour 18 mois, cet outil nous manque.
Il faut en construire un second?
Oui, c'est ma conviction, mais comment dirais-je, c'est un peu, pardonnez-moi, stupide de le dire, enfin c'est moi qui le dis comme ça, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de la picture, c'est l'ensemble du cadre militaire qu'il faut revoir en France, qu'il faut réaugmenter très sensiblement. Une des choses que je rapporte dans mon livre, on parle beaucoup des 2% du PIB, il faut passer à 2% au lieu des 1,78%.
C'est ce que demandait Obama, c'est ce que demande Trump.
Voilà, les
1,78%. On est à 1,7, 1,8, hein, c'est ça.
Oui, sauf que quand vous regardez vraiment, on est à 1,56. Ah. Parce que 1,78, c'est avec les pensions de retraite.
Les retraites, oui, exactement.
Bon. Donc l'effort n'y est pas. Mmh. Eh bien, je donne dans mon livre des témoignages de
les présidents et la guerre.
De spécialistes qui disent, c'est pas 2, c'est 5%. C'est-à-dire que si on veut s'adapter à ce qu'on a devant nous, c'est plutôt 5%. Donc effectivement, il faudrait un deuxième porte-avions. Et l'amiral Prazuk, qui est le chef d'état-major de la marine, insiste, comme ses prédécesseurs, sur l'importance de l'outil naval. Et la France a beaucoup d'atouts, c'est que le soleil ne se couche jamais sur l'armée française et sur la marine française, compte tenu de la présence mondiale. Et donc c'est essentiel. Et vous avez dit la Chine.
Ah oui.
La Chine, effectivement, c'est son obsession.
Le dernier livre blanc chinois l'an dernier, ce qu'explique Barluet, ce que vous avez souvent expliqué ici même dans 7 jours dans le monde, clairement axé sur la dimension maritime, illustre la volonté de passer d'une puissance continentale à une puissance navale.
Absolument. Voilà. Ils sont en train de réduire très fortement leur armée de terre, qui était pléthorique, axe sur la marine, et notamment la mer de Chine méridionale, axe stratégique à tout point de vue, ressources halieutiques, transport commercial, et cette bunkerisation, c'est-à-dire cette transportation, je dirais, cette implantation de d'îlots qui sont bunkerisés et qui revendiquent des espaces nouveaux pour la Chine et des eaux territoriales, et tout cela fait que vous avez régulièrement des frictions avec les Américains dans cette zone.
Oui, on a parlé du second porte-avions français. Il faudra avant ça régler la question de l'A400M, l'armée de l'air française qui a pris livraison jeudi de 6 nouveaux appareils de transport militaire. En plus des 5 existants, il y en aura 15 à terme. Jean-Yves Le Drian, justement, il se dit satisfait, mais exigeant. Exigeant parce que l'avion, il connaît des surcoûts, des retards. Les 7 clients de la 400M vont se réunir. Tom Enders, le patron d'Airbus, espère trouver un accord d'ici le 30 mars pour limiter les coûts. Juste d'un mot, qu'est-ce qui se passe?
Très beau programme. Avion absolument essentiel puisqu'on est sur des transporteurs qui sont aujourd'hui plus âgés que leurs pilotes. Donc c'est un avion clé. Le problème, c'est que dès que vous êtes à plusieurs pour le construire, ça fait des années et des années que vous avez des reports, que vous avez certains pays qui sont en dédit par rapport à l'engagement et que vous avez une fabrication éclatée de la 400M. Donc tout ça crée des retards, crée des surcoûts et ça pose un énorme problème. La 400M, c'est un avion à hélices. Les deux hélices de chaque côté tournent en sens inverse l'une de l'autre, ce qui crée un matelas d'air sous l'avion qui contribue à sa portance.
Ah.
Et c'est pour ça que ça renforce sa capacité de transport.
D'accord.
Donc c'est un avion essentiel, mais tous les ministres de la Défense s'en plaignent parce qu'ils sont arrivés tard, que ça renforce les coûts. Et dès lors que ça renforce les coûts, il faut prendre cet argent ailleurs.
Ouais. Vladimir menace tous azimuts, nous disait il y a un instant Pierre Servant, à tel point que la Suède, non membre de l'OTAN, rétablit cette semaine le service militaire, annonce cette semaine, pour un service militaire obligatoire à partir de l'an prochain. Il avait été aboli en 2010. Oui, la Suède, comme d'autres pays nordiques, comme d'autres pays baltes, ils ont une peur bleue d'un pays que vous connaissez un tout petit peu, Vladimir Fedorovski, vous qui signez Poutine de A à Z. C'est la Russie, bien sûr.
Bien sûr,
tout le monde
mais
a peur
vous savez, moi je suis contre la diabolisation de la Russie. Vous avez parlé de la guerre froide. Moi je considère que c'est beaucoup plus grave que la guerre froide. Pendant la guerre froide, il y avait des règles qui ont été respectées. Franchement, Pierre, à l'époque, il était aux affaires. C'était les gens qui ont été très pointus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de brouillard, vous connaissez ça en France, mais vous connaissez sur le plan international aussi. Moi, je pense qu'il faut établir les priorités sur le plan international. Et dans la réalité, on a beaucoup diabolisé aussi Trump, mais il a établi la priorité. Et sur ce plan-là, je raconte aussi dans Poutine de A à Z, Poutine a le même. La priorité, c'est la lutte contre l'État islamique, contre l'islamisme, qu'il considère comme une sorte de nazisme du temps moderne. Comme il faut réunir vraiment les efforts de tous. Vous savez, cette course qu'on a commencée aux armements, on peut le transformer en retour terrible de la guerre froide. On peut transformer ça dans une sorte de chance quand on va établir les règles, les priorités. Et je pense que dans les semaines qui viennent, ce sera beaucoup plus clair sur ce plan-là, parce que détrompez-vous, ce sera les négociations très dures avec les Russes, mais il y a une chance pour établir cette priorité. Dans la réalité, ce que je dis avec mon Poutine, pas Poutine, Oublions Poutine, mais le peuple russe, c'est un allié irremplaçable dans cette longue lutte et meurtrière contre l'islamisme qui nous attend.
Pierre Servent.
Oui, alors Vladimir a tout à fait raison. Paradoxalement, l'époque de la guerre froide, il y a des tensions, on se souvient de la crise de Cuba, on est passé par des phases vraiment dangereuses. Néanmoins, tout le monde se comprenait.
Se tenait
aussi. Tout le monde savait de quoi il s'agissait. Les Russes, 25 millions de morts durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils étaient perçus comme une menace. Enfin, les Soviétiques étaient perçus comme une menace par tout le monde, y compris par François Mitterrand. Je rappelle sa prise de position par rapport au Pershing, aux euromissiles, etc.
1983, de mémoire,
voilà.
C'est ça.
Mais à Moscou, il y avait des personnes très sensées qui comprenaient parfaitement de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, on est dans le brouillard. C'est d'ailleurs une de mes craintes, c'est l'explosion, enfin le truc qui va partir d'un endroit où vous allez avoir une confrontation à un endroit qui n'est pas maîtrisé. Et l'autre point qui est très important, c'est que tous les pays dont on a parlé, la Russie, les États-Unis, la Chine, sont dans des stratégies de puissance. Ouais. Il faut le comprendre, c'est comme cela. Et face à cela, ces stratégies de puissance ne sont pas nécessairement agressives. Elles sont potentiellement. Mais il faut en face être capable de développer, nous, Européens, des stratégies de puissance aussi. Savoir ce qu'on fait. Et à ce moment-là, on peut dialoguer. Le problème, c'est que si vous avez une entité très faible et en face d'autres entités qui sont en stratégie de puissance, eh bien, c'est là. On revient à une logique où celui qui n'a pas de stratégie de puissance, eh bien, il s'écrase et il va se faire déstabiliser. Et c'est là où souvent, où nous développons de la peur. Il faut comprendre la logique de Poutine, qui a une logique, qui a une vision. On pourrait en parler, Vladimir en parlerait mieux que moi, mais quand je vois la stratégie navale de la Russie par rapport à l'Égypte, par rapport à la Libye, où ils sont en train d'avoir des emprises, par rapport à la Syrie, Tartous également, mais Poutine a une vraie vision. Donc plutôt que de dire Poutine est un horrible personnage, construisons-nous
quelque chose
et on se comprendra.
Comparable.
Je révèle une anecdote dans mon livre, la première rencontre entre François Hollande et Poutine. Quand François Hollande est élu, le premier personnage qui rencontre, c'est Poutine. Poutine le regarde comme un demeuré, parce qu'il a ses fiches qui disent, même les proches de Hollande le traitent de capitaine de pédalo, de flamby, etc. Et donc Poutine, qui est un homme d'autorité, il regarde vraiment Hollande comme le symbole de la décadence occidentale en tant que personnage. Il le rencontre après l'opération Serval, et là, il regarde Hollande comme un chef de guerre. Ah, il le respecte, et on se parle.
Comme quoi.
Voilà. Donc, au lieu de passer notre temps à pleurnicher, soyons plus conscients de nos capacités et développons aussi des stratégies de puissance pour dialoguer.
C'est exactement ça, parce qu'il y a une différence entre l'escalade. Et l'escalade, ça s'est passé, d'ailleurs absolument inutile, ça s'est passé devant nos yeux. Une riposte graduée, il y a une très grande distance, on peut construire un nouveau monde, mais il ne faut pas inventer les choses. Vous inventez beaucoup en France, mais je vous signale qu'il ne faut pas inventer sur le plan international. C'est pour ça, dans la réalité, j'ai essayé de vous donner les clés pour déchiffrer
Poutine
la stratégie.
De A à Z. Et hop, il reparle de son livre, Vladimir. Bon, retour.
Mais il a raison, il faut lire.
Bien sûr, il y aura deux livres à lire ce week-end. Dites-moi quand même, j'évoquais la Suède, les pays baltes, très inquiets. Retour, on y reviendra tout à l'heure, le premier discours de Donald Trump devant le Congrès. Les sujets diplomatiques et militaires n'étaient pas les plus nombreux. Ce qu'il a dit quand même, mon boulot ne consiste pas à représenter le monde, mon boulot consiste à représenter les États-Unis d'Amérique. Il défendra donc d'abord les intérêts américains ?
Oui,
bien. Même s'il précise qu'il continuera de soutenir avec force l'OTAN ?
Mais voilà, si vous voulez, honnêtement, moi je commence à être fatigué à faire de l'exégèse de Donald Trump, parce qu'en plus, il faut écouter ce que dit son vice-président, ce que disent ses différents conseillers diplomatiques et militaires.
Son vice-président, il avait été assez clair à Munich il y a deux semaines.
Voilà, absolument, qui dit
aussi. Pour rassurer les Européens, on sera toujours là.
Et regardez, il avait, pendant la campagne, un discours qui pouvait paraître comme isolationniste, et là, il a un plan d'attaque sur son bureau, et compte tenu de son tempérament et l'augmentation du budget, à mon avis, je pense que sur la Syrie, ça va bouger dans les semaines qui viennent, parce qu'il faudra donc se confronter à l'État islamique. Donc à ce moment-là, dialoguer avec les Russes, avec les Turcs, avec les Iraniens.
On va en parler dans 5-6 minutes.
Il dialogue déjà.
Oui, autre offensive, puisqu'on parle beaucoup des menaces pour démarrer ce 7 jours dans le monde ce week-end. C'est celle menée sur le front de la cyberguerre. C'est François Hollande qui décrétait mercredi la mobilisation générale face aux cyberattaques. Oui, on se souvient comment la Russie avait été accusée d'être intervenue dans le scrutin américain en novembre. Quels moyens vont être déployés, contre qui, au-delà même des enjeux électoraux qui ont lieu en Europe, Allemagne, Pays-Bas, France cette année, la menace de la cyberguerre, elle est appréciée à sa juste valeur.
Oui. Et là, honnêtement, la France vraiment a pris. Alors, je suis pas le porte-parole de Jean-Yves Le Drian, pas du tout. Mais c'est vrai que déjà depuis quelques années, il a créé, notamment en Bretagne, une nouvelle école de formation à la cyberguerre, aux cyberopérations, aux cyberdéfenses. Et la France s'est mise beaucoup plus en ordre de bataille face à cela, à la fois pour bloquer les cyberattaques, qui peuvent d'ailleurs, bon, on a parlé de la politique, hein, le fait de faire de l'intrusion dans des fichiers de tel ou tel parti.
Le Parti démocrate aux États-Unis, par exemple. Il y a Emmanuel Macron aussi qui estime que, éventuellement.
Qu'est-ce qu'on peut trouver chez Emmanuel Macron?
Dans son camp, de ses proches disaient, attention, peut-être que, justement, la Russie serait derrière pour faire monter les extrêmes. Oui, alors peut-être mise en scène, c'est ce que vous dites.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs. Tous les États sont dotés de forces. Les Chinois ont des armadas de cyberguerriers.
Oui, c'est ça, pour attaquer.
Bien sûr, mais cyberguerre existe bel et bien. Il ne faut pas être hypocrite. Ça existe bel et bien, mais simplement, il y a un grand danger qui nous guette aussi aujourd'hui. Vous savez, il y a un problème, qu'il y a une sorte de mélange qui se passe devant nos yeux. Ce n'était pas comme ça pendant la guerre froide. On mélange la propagande et la politique réelle. À mon époque et à votre époque, Pierre, c'était une distinction absolument tout à fait stricte. Aujourd'hui, on mélange et autour de ça, il y a une mise en scène. Et autour de ça, il y a tout. Alors, calmons-nous, mais soyons très clairs. Évidemment, nous sommes à l'époque, sur ce plan-là, je rejoins tout à fait les préoccupations françaises. Nous sommes à l'époque de la guerre, de cyberguerre, qui ce sera une future
étape.
Pour la Russie a de l'avance dans ce domaine. Vladimir Poutine, je parle sous votre contrôle, n'est pas un ancien agent du KGB pour rien. Les Soviétiques ont développé des grandes capacités jadis en matière de propagande, d'action psychologique, de déstabilisation. Rappelez-vous le rôle des partis communistes frères. C'est extraordinaire dans tous les pays européens. Donc il y a un vrai savoir-faire. Ce savoir-faire.
Mais surtout, ils ont envoyé beaucoup de gens à Silicon Valley, parce qu'il y a beaucoup de gens d'origine russe qui sont aux États-Unis.
Et donc maintenant, si vous voulez, tout ce savoir-faire passe par le cyber, qui donne une multiplicité d'axes de déstabilisation, d'accès, qui est un outil majeur.
Donald Trump devant le Congrès, plus de cravate rouge, celle de la campagne, celle du début de
mandat. J'ai récupéré
la
sienne.
Oui, Pierre Servant, pour ceux qui nous suivent à la télé, parce que vous savez que 7 jours est à la fois à la radio et à la télé sur BFM Business le week-end. Oui, elle était bleu rayée, sa cravate, plutôt rassembleur, plutôt calme. Il est devenu président, enfin, ou il cherchait peut-être à s'attirer les bonnes grâces des parlementaires américains, les républicains, à qui il a quand même beaucoup de choses à demander, hein, notamment pour ses infrastructures, 1 000 milliards de dollars, le fameux mur mexicain.
Oui, voilà. Vladimir faisait allusion tout à l'heure à une époque où j'ai pu être modestement aux affaires au sein du cabinet d'un ministre de la Défense. Vladimir est un grand aîné
au milieu des
côté
années 90,
des affaires étrangères à l'époque de l'Union soviétique. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Donald Trump s'est conseillé l'entoure, notamment communication, en lui disant écoutez, président, il va falloir quand même se réaligner un tout petit peu en termes d'image de marque. Donc c'est très simple, le discours de tout à l'heure, il est extrêmement solennel. Donc vous lisez le texte, vous n'en bougez pas et vous collez au texte. Et vous donnez à ce texte une allure présidentielle, on change de cravate, vous arrêtez d'avoir le doigt levé comme un imprécateur ou comme un fou de Dieu qui en permanence est branché sur le...
Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'il ne change pas de cap, même s'il est plus doux.
Mais attendez, je pense que et encore une fois, ses conseillers vont le ramener dans un certain nombre de domaines. On voit qu'il y a des choses plus raisonnables, mais Trump ne va pas changer du jour au lendemain par rapport à son tempérament. Simplement, ses spin doctors, ses communicants, sur des événements comme ça, lui disent c'est important, c'est regardé par toute la presse internationale, il faut que vous redonniez une image plus calme, plus posée.
On va redémarrer avec Donald Trump dans un instant. Oui, quelles options pour le président américain face à Daesh? Et puis le roi d'Arabie Saoudite, tournée d'un mois donc en Asie. Rendez-vous avec Pierre Servant, Vladimir Fedorovski pour la suite de 7 jours dans le monde. À tout de suite.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Pierre Servant qui vous propose cette enquête inédite au cœur de la défense, hein, les présidents et la guerre. Oui, les 7 présidents depuis 1958, comment ils se sont comportés. Vladimir Fedorovski, lui, il vous propose la suite de son enquête sur un président actuel, Poutine, de A à Z.
La première, c'était juste son ascension jusqu'à l'an 2000. Et cette fois-ci, c'est un Poutine de trois jamais. jamais comme Gorbatchev, jamais comme Eltsine et jamais comme la révolution russe.
Bon, alors est-ce qu'un jour, eh bien, on fera des livres sur le mandat de Donald Trump ? Oui, bien sûr, on s'était quitté avec le président américain devant le Congrès il y a quelques instants. Trump qui a reçu du Pentagone les options pour intensifier la lutte contre Daesh. Alors, il y a plusieurs choix. Soit accroître le nombre de conseillers militaires américains en Syrie, il y en a déjà. Soit autoriser carrément des soldats américains à participer au combat contre les djihadistes, hein, ce que ne voulait pas faire Barack Obama, ou continuer de fournir des armes. Qu'est-ce qui peut décider, Pierre Servent ?
Je pense qu'il va aller dans le sens de l'offre la plus élevée. Quand on regarde...
Donc des soldats au sol ?
Oui.
En uniforme américain.
Oui, parce que c'est mon impression.
Oui,
si je regarde l'opération au Yémen, qui est une petite opération force spéciale, ça avait été préparé par Barack Obama, ça n'avait pas été engagé. Il l'a fait et il a pris l'option haute. Si vous regardez ce qui se passe sur Mossoul, il y a eu un changement de pied des Américains sur Mossoul. Ils appuyaient, ils renseignaient, ils formaient comme les Français, mais ils n'étaient pas embedded, ils n'étaient pas engagés aux côtés de la division d'or, des divisions de forces spéciales irakiennes qu'ils ont formées avec les Français, avec les Anglais, etc. Quand il y a eu un moment où ça a marqué un peu le pas, ils ont augmenté la dose et ils ont mis des soldats, je dirais, directement impliqués. Et là, compte tenu du tempérament de Donald Trump, je pense qu'il va avoir envie de marquer, de montrer que sur Mossoul, ça a pris un temps infini et que Barack Obama n'a pas pu terminer le job avec les Irakiens. C'est les Irakiens qui sont en première ligne.
Oui, parce que même si Daesh perd du terrain, quelque part, on a l'impression que Trump s'impatiente parce qu'il reste toujours Raqqa en Syrie. Mossoul, on va en reparler d'ici quelques instants.
Et à mon avis, je pense que... sur Mossoul, c'est bien engagé. Je ne sais pas si on aura le temps dans l'émission de donner quelques enseignements sur ce qui s'est passé sur Mossoul, première partie. Seconde partie. Mais là, Raqqa étant un symbole très, très fort, je pense qu'il peut avoir envie d'aller beaucoup plus loin, donc d'engager des troupes, d'essayer de faire une coalition, de s'entendre avec les Russes, puisqu'il y a une configuration un peu particulière baroque sur le terrain entre les Russes, les Turcs, les Kurdes, et d'essayer d'harmoniser tout ça pour faire tomber Raqqa.
C'est ça, parce que Vladimir Fedorovski, ce que vient de dire Pierre Servent, c'est sûr qu'il y a l'option militaire, oui, mais il y a aussi l'option diplomatique, le choix diplomatique. Dire de la part de Trump qui va libérer par exemple Raqqa et ses alentours, est-ce que ce seront des Turcs ? Est-ce que ce seront des Arabes, des forces démocratiques syriennes ? Quelque part, c'est un enjeu important aussi.
Bien entendu, c'est un enjeu important, mais je suis d'accord avec Pierre que s'il s'agit vraiment de la nouvelle donne. Vous comprenez, il y avait une évolution pendant longtemps. Obama et les gens qui l'ont suivi, il ne faut pas les distinguer, ils ont pensé qu'on peut faire l'alliance avec l'islamisme modéré. Je dois vous dire que votre Poutine vous a prévenu que l'islamisme modéré n'existe pas plus qu'au bolchevisme modéré. Mais vous avez persisté. Vous avez essayé avec les Libyens, il n'y a pas de Libye, etc.
Quand vous dites-vous, les Français, c'est une adresse aux Français, aux Occidentaux,
non,
aux Européens.
Je parle pour les Français, ont suivi, franchement, dans l'affaire, mais je pense qu'intellectuellement, c'était une erreur quand même capitale. Sur le plan stratégique, il faut dire Trump, il change la donne. Il dit que c'est la priorité, il faut agir d'une manière prioritaire contre l'islamisme, qui est un grand danger. Et ils ont commencé, vous savez, il y a toujours les échanges aux Nations Unies, etc., propagandistes, mais ils travaillent déjà d'une manière tout à fait pointue avec les Russes pour avancer les choses. C'est-à-dire la coalition dont vous avez parlé, on va parler d'Arabie Saoudite, j'ai toujours pensé que la coalition avec Qatar et Arabie Saoudite, c'est pas suffisant. Il faut élargir cette coalition. Et le concept est bien là. Ils vont travailler ça. Maintenant, comment ça se passe sur le terrain? Le diable sera quand même
évidemment
dans le détail. Et je pense que c'est cet activisme militaire. Évidemment, il y aura
des frictions.
Des frictions.
En Syrie, un mot juste, et puis on parle de Mossoul. Ensuite, les djihadistes qui contrôlent toujours Raqqa. En revanche, ils ont été défaits à Palmyre, donc, qui a été reprise par les forces de Damas. La ville antique tombée en mai 2015 aux mains de l'État islamique, reprise en mars 2016 par le régime, puis avant de retomber en décembre. Nouveau revers, donc.
Oui, nouveau revers, mais en même temps, l'État islamique conserve une capacité d'initiative, de reprendre la main de façon symbolique ici
ou
là.
Par surprise, oui, bien sûr.
Par surprise, donc l'État islamique n'est pas encore écroulé. Ils ont perdu énormément de territoires, et sur Mossoul, on voit bien qu'ils sont obligés de céder. Un enseignement, parmi les enseignements intéressants sur Mossoul, il y a le fait qu'on craignait beaucoup des problèmes humanitaires. hein, au niveau de la population civile et des risques de massacre à l'intérieur. Bah, ça ne s'est pas passé.
Oui, en même temps, il y a des centaines de civils qui quittent la partie ouest de Mossoul à cause des combats et à cause de la famine aussi.
Bien sûr. Mais c'est géré, c'est très bien géré et surtout, vous avez eu peu de ce qu'on appelle pudiquement des dommages collatéraux. Vous avez, on craignait beaucoup que dans les frappes, etc. Donc il y a eu une discrimination de la part notamment de des forces aériennes dans les tirs, intelligents, ce qui
fait... Pour éviter
voilà. Ça. Donc sur ce plan-là, cette crainte qu'on pouvait avoir, mais on pouvait craindre également des vengeances de forces rentrant à l'intérieur et faisant de l'élimination, etc.
Un bouclier humain existe bien, quand même.
Donc tout ça ne s'est pas passé, il faut espérer que sur Raqqa, ça se passe de la même façon.
Oui, à Mossoul, en Irak, les forces, les assauts des forces irakiennes qui se poursuivent en direction de l'ouest, des combats toujours rudes, les djihadistes qui payent chèrement leur peau, les troupes du régime qui ont repris un pont sur le Tigre, qui tentent de progresser, ce général irakien.
Le progrès est bon, la résistance est farouche, car ils défendent cette ligne qui est, selon nous, la principale ligne de front pour eux. S'ils tombent, et si Dieu le veut, ils tomberont. Je pense qu'il sera plus facile de combattre dans le reste des quartiers.
C'est quoi, Pierre Servent, les plus grandes difficultés donc pour les troupes irakiennes face à Daesh? Qu'est-ce qu'il leur reste aussi en armes et en hommes, aux terroristes, hein?
Alors la difficulté, un militaire français l'a résumé dans un échange avec moi il y a peu de temps, en disant la difficulté, c'est que c'est à la fois le bocage normand et la casbah d'Alger. C'est-à-dire que vous avez une compartimentation, si je puis dire, du terrain. Donc là, c'est assez compliqué à faire manœuvrer vos blindés, etc. Et après, quand on va rentrer dans la vieille ville, là, c'est ce qu'on connaît tous dans les villes du Moyen-Orient, où il faudra vraiment prendre maison par maison, et où les combattants irakiens et ceux qui les accompagnent seront obligés de descendre de véhicules. Donc ils seront plus, parce qu'ils ne pourront plus progresser en véhicules blindés lourds. Et là, évidemment, ils seront visés à la fois par un très grand nombre d'attaques suicides par véhicules piégés, hein, c'est ce qu'on a vu de l'autre côté, et puis ces fameux drones que l'État islamique a développés en grande quantité et qui sont équipés de grenades, d'explosifs, et qui arrivent à avoir des frappes assez ciblées, qui évidemment provoquent beaucoup de morts. Dans la première partie de la conquête de Mossoul oriental, vous avez quand même des pertes considérables du côté des forces irakiennes. L'enseignement positif, c'est que ces forces ont tenu, ont résisté, donc c'est vraiment encourageant sur tout le travail de fond qui a été fait auprès des divisions les plus aguerries irakiennes.
Vous qui signez les présidents et la guerre, vous qui êtes vraiment un intime de tous ces cercles de la défense, qu'est-ce qu'ils deviennent, les combattants de l'État islamique dans les zones reprises? Alors, que ce soit les locaux, les Syriens, les Irakiens, mais je pensais plus aux étrangers, les Européens, les Français par exemple.
Alors, ils partent, en tout cas sur Mossoul, le gros de ceux qui se battent pour l'État islamique, ce sont des locaux. Ouais. Ce sont des gens de Mossoul qui sont chez eux. D'accord. Et donc ce qui fait qu'ils ne partent pas, ils meurent. Alors, les combattants étrangers, eh bien, en fait, il y a un axe, notamment par Tal Afar, qui est une ville à 60 km à l'est de Mossoul, qui devait être prise par des milices chiites pour fermer ce verrou. Mais ce verrou est toujours ouvert, et ça permet un transit, si je puis dire, vers les zones de Raqqa. Donc il y a des mouvements de combattants étrangers entre Mossoul et Raqqa, entre l'Irak et la Syrie.
Les Français, ils vont revenir vivants, entre guillemets, en France ou pas?
Fabrice, c'est une question essentielle. Combien de Français? 680, 250 femmes, plus 150 enfants. Vous avez des enfants qui sont nés là-bas. Vous avez des jeunes djihadistes de 10 ans dont les vidéos se baladent sur tout le darknet islamiste radical. Vous voyez des jeunes de 10 ans qui ont des visages français sympathiques, qui parlent en français parfaitement, qui ont des yeux hallucinés et qui expliquent que leur rêve, c'est de se faire exploser dans les rues de Paris. Il y a aujourd'hui 200 combattants français qui ont déjà été tués, 200 qui sont revenus en France, mais certains ne sont pas déradicalisés ou arrêtés. Donc il y a en France aujourd'hui certainement des revenants de cela. Et la grande crainte par rapport à l'élection présidentielle, c'est que l'on ait des attentats avant l'élection présidentielle pour favoriser un vote pour le Front National, puisque le vote des extrêmes au pouvoir, c'est entre guillemets pain béni pour les djihadistes, parce qu'ils veulent absolument parvenir. On parle de guerre civile, on a tort d'en parler n'importe comment. C'est l'objectif des djihadistes de fracturer les sociétés, et notamment la France, qui est cœur de cible. la France est cœur de cible dans l'optique djihadiste.
On ira en Asie dans un instant. Un mot quand même, les Chinois qui mobilisent leur armée contre les islamistes, spécialement dans la province occidentale du Xinjiang, peuplée majoritairement de musulmans ouïghours. Hein. Des milliers d'entre eux d'ailleurs combattent en Syrie. On a vu une vidéo qui a été diffusée par l'État islamique qui menace la Chine de rivières de sang. Pékin, de quoi s'inquiéter ?
Oui, Pékin a de quoi s'inquiéter, parce que la caractéristique de l'État islamique par rapport à Al-Qaïda, c'est d'avoir des ressortissants de 90 pays, d'avoir des groupes terroristes qui se sont franchisés Daesh un peu partout, et que le risque, vous allez avoir une disparition certainement du califat, mais les métastases, y compris en Chine, s'éparpillent, et elles sont nourries aussi par un sujet que vous abordiez au début de notre émission, c'est-à-dire ces peurs, ces tensions, ce réarmement. Il y a dans le monde aujourd'hui une sorte d'envie de barbarie et d'envie de tyrannie. Et tout ça nourrit les particularismes et les envies d'en découdre, notamment de ceux qui sont des fous de Dieu et qui sont dans une posture de dire, voilà, il faut soit que tu te convertisses, soit que je te tue. Et la Chine a aussi un problème par rapport à ça.
Vladimir Fedorovski, alors oui, l'Arabie Saoudite est en Asie, normalement, mais enfin là, l'Asie dont on va parler, c'est plutôt l'Extrême-Orient, c'est la partie asiatique en ébullition. Un mois de tournée pour le roi Salman, le roi d'Arabie Saoudite, donc en Malaisie, en Indonésie, en Chine, au Japon, aux Maldives, à Brunei, plus 1500 personnes qui l'accompagnent, plus des dizaines de tonnes de bagages pour le roi. Voyage fondamental pour le royaume dont l'économie souffre à cause de la chute des prix du brut, une économie qui cherche à se diversifier, un pays qui se retrouve englué, embourbé au Yémen, un pays, l'Arabie Saoudite également, avec la concurrence de l'Iran de plus en plus forte.
Hein. Bien sûr, il y a...
Qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas ?
Non, mais ils font... C'est la preuve que, vous savez, le monde change. Et l'Asie devient un facteur absolument incontournable sur l'échiquier mondial. Vous avez parlé d'une certaine fragilité. J'ai toujours pensé que c'est un royaume assez fragile, l'Arabie Saoudite. Évidemment, ils veulent travailler beaucoup plus avec le continent de l'avenir. Mais on est à la croisée des chemins, franchement. Vous savez, on a assisté pendant cette période désastreuse pour moi, en tout cas de la dernière période de la crise, à une sorte de, disons, rupture historique entre la Russie et l'Occident. La Russie, vous avez poussé la Russie dans les bras de la Chine, vers l'alliance économique, mais hélas militaire aussi, avec la Chine. Et maintenant, avec cette tournée des Saoudiens, c'est encore une fois la preuve que l'Asie devient un facteur très important. Maintenant, nous avons le choix, soyons très clairs. Si on continue comme ça, ça va bousculer autrement. Ce qui m'inquiète, francophile que je suis, vous savez, franchement, c'est vraiment l'absence de vision, sinon l'absence de la présence française dans ce monde de la configuration. Vous savez que Poutine, Trump se préparent pour la nouvelle rencontre, si ça se travaille avec les Chinois, cette visite, la preuve est encore une fois de la recomposition du monde, et l'Europe doit réagir. Elle réagit sur le plan militaire, il doit être présent sur le plan diplomatique, parce que là, je suis formel. Le monde équilibré exige vraiment une vision européenne pour l'avenir, parce que le monde de demain, ce ne sera pas le monde tel qu'on a connu aujourd'hui, d'ailleurs, avec cet ancien.
Pierre Servent. Alors, une remarque pour les auditeurs qui n'ont pas vu les images. On voyait le roi d'Arabie Saoudite qui est très courbé, qui marche avec une canne. Et il y a aussi une symbolique...
Il y a 82 ans.
Hein. Voilà, une symbolique dans cette apparence physique qui est en distorsion par rapport à la jeunesse saoudienne qui, pour beaucoup, ne jure que par l'État islamique. Et on le voit sur les réseaux sociaux, c'est une des grandes craintes.
La moitié de la population a moins de 25 ans.
Voilà. Et par ailleurs, un certain nombre d'informations que j'ai pu avoir accès montrent que dans les combattants de Daesh en Levant et en Mésopotamie, on retrouve énormément de Saoudiens passés dans les années précédentes par les sas de déradicalisation de l'Arabie Saoudite. Et ça n'a pas fonctionné. Il y en a en Mauritanie qui fonctionnent beaucoup mieux. La Mauritanie a mis en place aussi des sas de déradicalisation qui marchent. En revanche, du côté de l'Arabie Saoudite, ça n'a pas fonctionné. Et donc, je suis d'accord avec Vladimir Fedorovski, c'est un empire, l'Arabie Saoudite presque, mais qui est au pied d'argile. Et donc, ça nourrit des craintes pour l'avenir.
qui dirige encore l'Algérie. Bouteflika, qui lui fête ses 80 ans, justement, on en parlait avec l'âge du roi d'Arabie Saoudite. Et puis la Turquie, premier gros procès pour juger ceux qui sont désignés par le pouvoir comme étant les putschistes de l'été 2016. On va retrouver Pierre Servant, on va retrouver Vladimir Fedorovski dans 7 jours dans le monde sur BFM Business, à la télé et à la radio.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et toujours avec Pierre Servant et Vladimir Fedorovski. Alors, la Turquie, elle prépare son référendum du 16 avril, hein, visant à donner davantage de pouvoir au président Erdogan, hein, dans la Constitution, référendum. Bon, dont tout le monde pense qu'il devrait lui être favorable. Bon, on verra bien.
Et évidemment, la visite le 9 à Moscou, très importante. Et vous avez raison. Aussi.
Vous avez raison, Vladimir. Et c'est dans ce contexte que s'est ouvert, eh bien, près d'Ankara, le procès de 330 accusés, poursuivis par le pouvoir et soupçonnés d'être impliqués dans la tentative de putsch. Vous vous en souvenez, c'était l'été dernier, c'était le 15 juillet 2016. Le plus grand procès mené depuis l'an dernier contre ces putschistes présumés. Des milliers de personnes ont déjà été jugées. Procès qui s'ajoute aux purges tous azimuts. Il y a déjà eu 100 000 limogeages, sans compter les 40 000 incarcérations. Vers quoi évolue la Turquie? Vous en parliez dans votre avant-dernier opus, Pierre Servant, dans l'extension du domaine de la guerre, avec au milieu de tous ces personnages messianiques que sont Poutine, le calife Baghdadi, même Benjamin Netanyahu. Il y avait également le président Erdogan.
Oui, Erdogan, selon moi, est vraiment dans une vision de restauration de l'Empire ottoman, même si c'est pas la réplique de ce qui existait à l'époque de l'Empire ottoman, qui régnait sur des territoires extrêmement vastes, qui dominait d'ailleurs l'Algérie. La Turquie était le colonisateur de l'Algérie. Nous, Français, nous avons chassé le colonisateur turc. On s'est substitué à eux, puisque la colonisation algérienne fait partie parfois du débat politique français.
Ah bon ?
Mais donc, Erdogan est vraiment dans cette posture de restauration ottomane musulmane et donc il avait besoin de cette présidentialisation et finalement le putsch le sert. Je pense pas du tout qu'il en soit à l'origine, mais là il fait une énorme lessive, les milieux journalistiques, intellectuels, magistrats, militaires. Et le problème, c'est que dans le temps présent, ça désorganise la Turquie, qui était déjà fragilisée par les attentats, notamment de l'État islamique,
et
la
les
guerre
Kurdes, bien sûr.
La guerre avec les Kurdes, avec leurs Kurdes, les Kurdes turcs. La crise économique qui touche maintenant un grand nombre de pays, à travers notamment le tourisme. La France a été touchée aussi. Enfin, tous les pays sont touchés par cela. Et donc, ce qui est inquiétant, je donne un détail, c'est que derrière tous ces mouvements, vous avez une reprise en main idéologique islamiste, notamment dans le monde de l'éducation, qui fait qu'un certain nombre d'écoles sont reprises en main et que les deux premières décisions prises quand une école est reprise en main sous influence islamiste, c'est suppression des sciences et suppression de l'histoire, sauf l'enseignement de l'histoire de l'islam. Et là, ça renoue avec l'influence du wahhabisme saoudien depuis les années 60, et qui ont conduit, selon moi, je le disais dans le livre « Extension du domaine de la guerre », à une très forte paupérisation intellectuelle du monde musulman au sens large, sunnite, parce que les Perses résistent,
oui, bien sûr, ouais.
Et qui explique notamment pourquoi vous n'avez plus aujourd'hui aucune médaille Fields, aucun prix Nobel des sciences, alors que le monde arabo-musulman a été phare à certaines époques
dans les mathématiques, dominant, dans les sciences, l'astronomie,
la science, la médecine, bien sûr, etc. Donc c'est pas un procès ad hominem de la religion.
Non, j'entends.
C'est le constat que cet obscurantisme religieux gagne du terrain et gagne du terrain en Turquie.
Est-ce que la Turquie elle a des raisons quand même, Vladimir, de se blinder quand même, alors s'enfermer, alors à l'excès peut-être, je ne sais pas, mais contre toutes les menaces, le terrorisme kurde, le terrorisme islamiste?
Non, on ne peut pas juger, mais en tout cas, moi je suis d'accord qu'il y a cette vision nostalgique d'autrefois, d'une part avec un pragmatisme extrême quand même de ses dirigeants. Moi j'étais l'autre jour à Israël, j'étais frappé par le pragmatisme d'Netanyahou. Vous faites le parallèle psychologique,
oui, psychologique
avec ça, je fais aussi le parallèle objectivement avec Poutine. C'est hyper pragmatique, surtout sur le plan international avec les nouvelles alliances. Il ne faut pas sous-estimer vraiment, il reste certainement avec le temps, mais cette lune de miel qui sera dans quelques jours à Moscou, avec quand même ces nouvelles, vraiment l'approfondissement des accords dans le domaine pétrolier et gazier se passe devant nos yeux, et avec la coopération sur le terrain, y compris militaire. Ce sera une configuration très fine et très intéressante. Regardez comment ça va se configurer. Trump, Poutine,
Erdogan
Netanyahou. Alors, et encore une fois, mon souhait, que l'Europe se réveille sur ce point.
À surveiller donc cette rencontre donc à Moscou, tiens, un pays gazier également, l'Algérie, hein, où le président Bouteflika fêtait jeudi, c'est 80 ans, un président qui ne s'est pas adressé à son peuple directement depuis 2012. Il avait rempilé il y a 3 ans pour un quatrième mandat, bien qu'il ait été frappé l'année précédente par un AVC. Il vient régulièrement en France pour des séjours dans des hôpitaux. Pierre Servent, est-ce qu'il faut surveiller spécialement ce qui se passe en Algérie ?
Oui, il faut vraiment le surveiller. On a un peu, de l'autre côté de la Méditerranée, 3 grenades dégoupillées à des niveaux différents dans la consommation du détonateur et dans le risque d'explosion. Il y a la Tunisie qui a déjà explosé dans le sens où le djihadoterrorisme y est implanté. C'est un pays dont nous sommes proches. Le Maroc, qui a su y échapper grâce à la sagesse roi Mohamed VI, mais qui se trouve en instabilité politique aujourd'hui. Et ça reste un pays qui est un objectif pour les djihadistes, justement parce que le roi est parvenu à tenir une position assez astucieuse entre un gouvernement islamiste et en même temps un royaume qui reste dans une position, je dirais, centrale et équilibrée, notamment par rapport à la religion du juste milieu sur le plan de l'islam. Et le roi est commandeur des croyants, de tous les croyants.
Bien sûr, c'est pas simplement
les musulmans.
Et alors la grenade
sérieusement dégoupillée, c'est celle de l'Algérie. Pourquoi ? Parce qu'on a effectivement une gérontocratie au pouvoir, avec des jeux à l'intérieur. Alors là, Vladimir est certainement plus fort que moi, parce que ça rappelle le Kremlin.
Les
kremlinologues, quand on disait, mais qui apparaît, qui disparaît ? Tel chef des services secrets, un jour il est reçu à Paris, le lendemain il a disparu de la photo. Et donc ce qu'on peut supposer derrière, c'est qu'il y a des luttes très fortes, et puis vous avez aussi des problèmes internes entre berbères qui sont, encore une fois, qui sont les autochtones d'origine qui ont été conquis et colonisés par les arabo-musulmans. Alors nous, on est tout le temps avec nos propres culpabilités, il faut voir comment ces populations vivent ça. Et donc vous avez des tensions sporadiques entre berbères.
On va rappeler, vous aviez côtoyé à une époque le président Boumediene, puisque vous étiez l'interprète de Brejnev.
Dans la langue arabe. Voilà. Et la comparaison est exacte. Moi, je dis souvent que la France d'aujourd'hui me rappelle l'Union soviétique d'hier, mais l'Algérie d'aujourd'hui, c'est vraiment à la lettre. Mais vous savez,
ça sera quoi l'après Bouteflika ?
L'après Bouteflika, je crains vraiment au retour d'une sorte de tension, et le danger islamiste n'est pas sous-estimé là-bas.
Oui, oui. Et il faut rappeler que en Algérie, vous avez Abdelmalek Droukdel, qui est l'émir d'Akmi, d'Al-Qaïda Maghreb islamique, qui est là. Les Algériens ont toujours joué un peu avec cette menace pour, quand c'est les arranger, pour se montrer comme défenseurs. Donc ils les maîtrisaient plus ou moins dans le sud algérien, dans le nord Mali, jusqu'à ce qu'Akmi se déploie. Et puis vous avez en Algérie certains groupes qui se sont franchisés Daesh, État islamique, et notamment un de ceux-là ont égorgé notre compatriote
qui était parti faire de la randonnée
là-bas. Donc c'est vraiment un problème sérieux, plus l'effondrement de la recette pétrolière et la difficulté à tenir socialement un pays où 50% de la population est très jeune et est fasciné par deux modèles. Le modèle occidental de consommation, pardonnez-moi l'expression, de blondes à forte poitrine. Il ne faut pas oublier que tous ces pays sont fortement consommateurs de films pornographiques. Et puis, l'idéal daéchien, dépasser tout ça par un engagement pour Dieu, pour Allah.
Les présidents et la guerre, une enquête inédite au cœur de la défense, est signée Pierre Servent, sortie cette semaine sur ces 7 présidents de la République. Comment se sont-ils comportés depuis 58 comme chef de guerre ? Et puis, autre chef de guerre aussi, quelque part, c'est Poutine. De A à Z, c'est signé Vladimir Fedorovski. Merci à tous les deux, c'est fini pour 7 jours dans le monde, et vivement le week-end prochain.
BFM Business, 7 jours dans le monde.